Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour cette porte ouverte, notre Dieu, qui nous permet d'aller en profondeur avec toi. Je prie ce matin que ton Saint-Esprit, Seigneur, que l'Esprit Saint aide chacun de nous. Merci pour cette louange et cette adoration qui certainement a disposé nos cœurs. Et nous voulons parler de toi après avoir chanté la louange et la gloire de ton nom. Nous voulons entendre le message de ta parole. Que cette parole soit à propos pour chacun ce matin, en ce dernier dimanche de l'année, qui puisse être un message particulier pour clôturer cette année ou pour amorcer le début de l'année qui vient. Te bénissons en Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà un parcours de plusieurs mois et de plusieurs dimanches arrive à son terme aujourd'hui. Au-delà du symbole de ce dernier dimanche de l'année, c'est la fidélité de Dieu que nous célébrons. Nous sommes là encore aujourd'hui parce que Dieu est fidèle dans les grandes comme dans les petites choses, dans les bénédictions comme dans les épreuves, dans les joies comme dans les souffrances, mais aussi parce que nous avons pris position. Depuis que lui s'est positionné pour nous, nous avons pris position pour lui. Et ce matin, après avoir parlé de Jésus, lumière du monde, le dimanche dernier, je voudrais que cette lumière nous donne de nous distinguer des ténèbres, n'est-ce pas? Car la lumière, lui, dans les ténèbres. Et Jésus, au travers des apôtres, nous a laissé des textes qui nous parlent de cette distinction, de cette position que le chrétien, la chrétienne doit assumer dans ce monde. Alors je vous propose en fin de cette année un petit parcours sur l'état de ce que Jésus dit par la bouche de l'apôtre Jean de cette façon de nous positionner par rapport à ce que la Bible appelle le monde. Faisons quelques lectures avant d'aller plus loin. 1 Jean le chapitre 1, versets 1 à 10. Le temps que qu'Éric trouve quelque chose que je lui ai demandé, il vous affichera la diapo, mais vous avez le texte aussi dans vos Bibles, 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 10. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Donc ça c'est à la fin. À la fin, s'il te plaît. Oui, c'est celui de la fin. Commence par lancer la diapo. Merci. Un Jean chapitre 1, versets 1 à 10. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. 1 Jean 2, verset 3, à ceci, nous savons que nous le connaissons et nous gardons ses commandements. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Trois autres textes ensuite. 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 18. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 5, 3 à 4. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens 13, 14 à 8. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de la rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Deux thèmes pour nous encourager à la fin de ce parcours de l'année. Le premier, c'est nous ne sommes pas du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes bien dans ce monde. Nous sommes bien vivants, n'est-ce pas, dans cette humanité. Alors c'est quoi le monde selon la Bible? Selon la Bible, on peut discerner trois compréhensions du monde. Trois compréhensions du monde. N'aimez pas le monde. Voilà. Clique juste une fois. Voilà. Voilà la première compréhension que nous avons du monde. C'est ce monde physique, le monde créé par Dieu, n'est-ce pas? Et nous, chrétiens, nous vivons dans ce monde, dans ce premier sens du monde, le monde créé par Dieu, que nous voyons tout de suite dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Chapitre 1 de la Genèse, où le texte dit clairement que Dieu est créateur de ce monde. Et la Bible l'appelle le cosmos, hein. Et le monde ne se résume pas à la planète Terre. Dans la création, dans le chapitre 1 de Genèse, nous voyons bien que le monde dont Dieu est créateur, c'est l'univers tout entier. L'univers tout entier. Le Proverbe 8, verset 26 dit, Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni les premiers grains de poussière de l'univers. Dieu est créateur même des atomes que nous ne voyons pas, les poussières de l'univers, les atomes. Tous ces corps que maintenant les scientifiques découvrent, l'atome, Dieu est le créateur. Seulement on le découvre avec notre intelligence qui évolue dans la modernité. Jérémie 10, verset 12 dit, l'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse et il a déployé le ciel par son intelligence. C'est lui, le grand architecte de l'univers, que notre intelligence découvre au fur et à mesure des siècles et de notre développement humain. Il en est le grand architecte. Ce monde appartient à son créateur. Ce monde appartient à Dieu. Tout ce qu'il contient appartient à Dieu. Et tant que l'Éternel règne, le monde ne chancelle pas. Parce que c'est lui qui décidera au dernier moment ce que le monde deviendra. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit, justement, en regardant les choses visibles et invisibles que nous découvrons par l'intelligence humaine, la seule conclusion qui vaille de tirer, c'est de dire, finalement, c'est vrai, qu'il y a une intelligence supérieure quelque part, qui a mis tout ça dans l'ordre. Ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Les choses sont tellement bien ficelé. Et la science nous le montre bien. Toutes les données scientifiques nous montrent que tout a une cohésion scientifique. Si c'est le fruit d'un hasard, c'est quand même forcé. Et les grands scientifiques disent, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui ne se disent pas non plus athées, ils disent certainement qu'il y a un grand maître quelque part qui a tout mis en l'état, mais qui maintenant nous le laisse gérer à nous. C'est une belle façon de confesser sans confesser le Dieu créateur. Ce monde-là, c'est pas lui qu'il faut pas aimer, parce que ce monde-là est création de Dieu. Le deuxième monde, enfin la deuxième compréhension du monde, c'est le monde humain, notre humanité, n'est-ce pas? La Bible en parle aussi. L'humanité que Dieu aime, que Dieu voudrait sauver, n'est-ce pas, qu'il est dit dans ce texte que nous connaissons tous, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce monde-là, il s'agit de l'humanité, des êtres humains, créés en l'image de Dieu. Dieu est fou, amoureux, pour utiliser une expression que nous connaissons, de ce monde-là, de son humanité. Il fait tout depuis la création pour ne pas lâcher l'être humain. Malgré nos turpitudes, malgré nos désobéissances, malgré nos rébellions, malgré notre athéisme, malgré notre rejet de Dieu, il reste attaché à ce monde-là, à l'humanité. Il reste attaché. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Jésus ôte le péché du monde. Il est mort pour les péchés de notre monde, du monde entier. Il est vraiment le sauveur du monde. Il s'offre en sacrifice pour la vie du monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il prend toujours l'initiative de se réconcilier, même si c'est nous qui l'avons offensé. Incroyable. C'est nous qui le rejetons. C'est nous qui ne voulons pas de lui. Mais lui, il continue de nous chercher. Il continue de nous tendre la main. Il continue de nous dire, tu as toujours ta place auprès de moi. Il n'est pas trop tard. Et puis enfin, il y a le troisième, cette troisième compréhension. Ce monde mauvais, le chrétien ne doit pas s'associer à cette troisième compréhension. C'est le monde pécheur et mauvais qui se détourne de Dieu et qui refuse la grâce de Dieu. C'est le milieu où le mal est entré par la chute originelle, et où désormais règne la mort. Tous les pécheurs marchent selon le train de ce monde, selon le péché de ce monde. Ce monde est tout entier sous la puissance du malin. Satan est en effet appelé le prince de ce monde mauvais. Il n'est pas surprenant que la sagesse du monde considère l'évangile comme une folie et qu'elle reproche à l'évangile d'être pas la vérité, n'est-ce pas? L'esprit du monde est tout autre que l'esprit de Dieu. Le monde va plus loin. Le monde est ouvertement le Christ. Il n'aime pas le Christ. Il le hait. Le monde déteste même les disciples du Christ, ne serait-ce en regardant toutes les persécutions qu'il y a encore dans le monde pour des gens qui veulent juste suivre Jésus. Tandis que le monde aime écouter ceux qui lui ressemblent. Et il y a tellement de textes qui en parlent, et Jésus lui-même le disait. C'est manifestement donc cette troisième compréhension du monde que la Bible dit de ne pas aimer. C'est ce monde mauvais, ce monde qui se détourne de Dieu, ce monde qui n'aime pas Dieu et dont les valeurs sont opposées à celles de Dieu. Alors, où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur, par rapport à cette profondeur de ta vie chrétienne dans laquelle tu dois avancer? Tout en avançant dans nos vies chrétiennes, nous avons, par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu, besoin de nous positionner, de prendre position pour Dieu, de choisir la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je prie et je souhaite que tu choisisses la vie. Parce que Dieu sait que tu es capable. Parce que maintenant que tu es renouvelé en Jésus-Christ, Dieu sait que tu es capable de choisir et de faire le bon choix. Il y a ce qu'on appelle la dépravité totale, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit dimanche dernier, la dépravité totale, c'est le fait que l'être humain est totalement tourné vers le mal, même si on a l'impression que c'est pas vrai. À cause du péché d'Adam et Ève, on dit que nous sommes totalement atteints par le péché. Si le péché était une maladie, nous sommes totalement contaminés par cette maladie-là. Totalement. Il n'y a aucun espace de notre être qui n'est pas touché par cette maladie. Cette maladie nous gangrène de la tête à l'orteil. Pour prendre une image que je n'aime pas, mais pour illustrer le mal qu'est le péché, c'est comme si nous avions un cancer et que ce cancer était généralisé dans tout notre corps. Tout notre corps. Qu'aucune partie de notre corps n'était épargnée par les cellules cancérigènes. Tout notre corps. Et c'est l'image la plus sombre qu'on peut avoir du péché. Et c'est ça qui doit nous faire. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Nous sommes totalement atteints par le mal. Quelquefois, nous envoyons des points très noirs quand des choses dramatiques se produisent. Mais quand tout semble aller bien, on a l'impression qu'on n'est pas ces monstres-là. Nous sommes ces monstres-là à cause du fait que le péché a été introduit dans le monde. Le péché nous a atteints. Les textes qui en parlent sont des textes profonds, des textes clairs. Quand l'épître aux Galates parle dans le chapitre 5 de la nature pécheresse, il dit il n'y a rien de bon dans la chair, car notre chair ne fait que des choses qui sont de l'ordre de la destruction de soi-même et de l'autre. Genèse 6, verset 5 dit, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Il faut bien vous rendre compte que quand la Bible dit le mal, c'est pas tout ce qui fait mal à l'autre. C'est tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et que parfois nous appelons bien dans notre monde. Romains 3, 10 à 12, sinon Genèse 8, d'abord 21 dit, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Dès qu'on est petit, notre cœur est porté au mal, est porté à se détourner de Dieu, à faire ce que Dieu n'aime pas. Romains 3, 10 à 12 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, pas même un seul. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est un triste tableau. Hein? Il est triste ce tableau. Mais c'est le tableau de notre humanité. C'est ce que nous sommes foncièrement. Nous sommes, à cause malheureusement du péché originel, nous sommes des êtres mauvais. Profondément mauvais. Totalement mauvais. Ça nous choque ce type de message parce que chacun de nous est convaincu que nous sommes bons. On est convaincu qu'on est bon, mais c'est normal parce que notre société, on est né dans une société qui nous a dit que nous étions bons. La Bible a un autre regard. Éphésiens 4, verset 17 dit, ils ont l'intelligence obscurcie parce que Christ dit que l'origine du mal, c'est le cœur. Le cœur ici, c'est pas l'organe qui est dans notre partie gauche de la poitrine, c'est le centre, selon la pensée hébraïque, c'est le centre de l'être humain, son intelligence, sa raison, sa volonté, ses sentiments, tout ce qui fait l'être humain, c'est son cœur. Et il dit, c'est de là que viennent les mauvaises choses, parce que ce cœur, il est corrompu. Jérémie disait, qui connaît le cœur de l'homme? Car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Seul Dieu connaît le cœur. Le corps, alors, le corps, c'est l'agent, c'est celui qui nous permet de pécher. Le corps n'est pas à l'origine du péché, mais c'est le moyen, puisque c'est notre corps que nous utilisons pour tout faire. Le péché vient du fond de nous, et notre corps est son agent immobilier, pour utiliser une expression, hein, est son démarcheur, malheureusement. Notre corps est celui qui manifeste le péché que nous sommes au fond de nous. Et se manifeste de diverses manières. Voilà le tableau de notre humanité. Voilà ce que nous sommes foncièrement. Voilà ce qu'il faut dire quand nous annonçons l'évangile. Pourquoi on dit l'évangile est une bonne nouvelle? Parce qu'il y a cette mauvaise nouvelle-là. Parce que le tableau n'est pas reluisant. Parce que l'être humain est mauvais. Parce que nous sommes mauvais. Parce que nous sommes mauvais. Parce que nous sommes mauvais. Mais Dieu fait grâce malgré notre dépravité totale. Ce qu'on appelle la grâce commune. C'est-à-dire que malgré le fait que nous sommes gangrenés par le péché, Dieu a préservé le bien malgré tout en nous. Parce que nous sommes sa création. Dieu n'a pas permis que le péché nous atteigne avec une intensité qui fasse qu'il n'y ait plus de bien. C'est pour ça qu'on dit, mais si nous sommes totalement dépravés, pourquoi encore on peut faire du bien? Pourquoi encore les gens peuvent s'aimer? Oui, parce que Dieu a gardé en chacun de nous une partie de bonté. Il a préservé cela. Mais cette préservation est bien minime. Si je prends une image, c'est comme si on avait 1% de bonté et 99% de péché. Et ces 1% de bonté sont là pour nous dire, bah, Dieu aurait voulu que nous soyons à 100% de bonté plutôt. 100% de bonté. Le péché, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes création de Dieu, ne nous a pas atteint avec l'intensité qui aurait pu nous détruire dès le départ. Dieu a préservé son monde de l'intensité totale du péché. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. C'est ce qui fait que, qu'on soit chrétien ou pas, on est encore capable de penser de bonnes choses, de faire de bonnes choses, de dire de bonnes paroles et de même faire du bien dans le monde. C'est ça. Mais ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Que nous, nous savons que le non-croyant ne sait pas qu'il appelle souvent la chance ou qu'il appelle souvent la bonté de mère nature, n'est-ce pas? Et la difficulté sur ce tableau, c'est d'arriver à convaincre l'humanité que nous sommes mauvais. Et de plus en plus, c'est difficile de le faire parce que dès qu'on dépeint ce tableau, on dit, oulala, vous êtes des pessimistes, vous êtes des conservateurs, vous êtes des gens qui ne veulent pas évoluer, vous êtes des anti-progressistes. Comment vous pouvez dire que l'homme est si mauvais alors qu'on voit siècle après siècle l'essor de la modernité? Mais rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, on a fêté une terrible tragédie de notre humanité, première et deuxième guerre mondiale. Ça nous rappelle qu'on n'est pas si bon que ça. Et pendant que nous sommes là en plein culte, il y a des guerres encore ailleurs, à cette heure-ci, dans le monde. Il y a des guerres. Pendant que nous sommes là en plein culte, il y a des crimes qui se produisent. Il y a des gens qui sont en train de se faire assassiner, des femmes qui sont en train de se faire violer, des enfants qui sont en train de se faire exploiter. Dans le même monde où nous sommes, on n'est pas si bon que ça. On n'est pas si bon que ça. Mais le monde veut qu'on ait un discours, comme on dit, lissé. Et c'est là que cette tendance, tu peux mettre la diapo d'après, cette tendance à être séduit par l'apparence extérieure des choses, sans prendre l'information sur leur valeur réelle. Et le monde, notre monde nous parle de plus en plus de valeurs comme la tolérance, n'est-ce pas? La tolérance, c'est ce que le monde nous propose. De plus en plus, on nous dit, oui, en tant qu'être humain, en tant qu'humaniste, on doit tout accepter. Tout se vaut. Il y a un auteur qui s'appelle Carson qui a dit que la nouvelle tentation aujourd'hui, c'est la tolérance, c'est qu'on appelle la tolérance. Cette nouvelle tolérance suggère et qu'accepter la position d'autrui signifie qu'on croit à cette position et que cette position est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dis, bah écoutez, le musulman a le droit d'avoir son culte, ça veut dire que je dis qu'il est aussi dans la vérité. Non, il n'est pas dans la vérité parce qu'il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu fait grâce et je ne vais pas prendre une arme contre lui. Non. C'est ça, plutôt, la tolérance, c'est de dire, il a le droit de penser ce qu'il pense, même si c'est faux. Et moi, je sais que par rapport à l'évangile, ce qu'il pense n'est pas vrai. Mais je ne vais pas l'agresser pour ça. Je vais lui montrer par ma vie et par l'annonce de l'évangile, qu'est-ce qui est la vérité. C'est ça la différence. Donc, le fait que j'accepte qu'il y ait d'autres pensées que moi ne veut pas dire que je suis d'accord que c'est vrai. Parce que la seule vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et la nouvelle tolérance veut qu'on dise, oui, tous les chemins mènent à Rome. Vu que tu acceptes qu'il soit aussi dans cette pensée, ça veut dire que tu acceptes que c'est vrai. Mais non. Mais non. L'apôtre Jean n'avait aucun problème pour appuyer la foi de l'amour et la vérité. La vérité et l'évangélisation. Il dit que si la foi chrétienne insiste qu'en son cœur se trouve le message de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est une information au sujet de Dieu. Et cette information, elle est la vérité. Et si elle est la vérité, elle doit être dite, elle doit être annoncée, elle doit être vécue, elle doit être proclamée, elle doit être assumée. Et si nous ne le faisons pas, il dit que nous sommes des criminels. Parce que nous savons que ceux-là vont à la mort et nous ne leur disons pas la vérité. Nous savons que ceux-là vont à la mort éternelle et nous ne vivons pas la vérité pour qu'ils la voient. Le tout n'est pas de dire la vérité. Le tout, c'est de vivre cette vérité pour que les hommes voient aussi en nous que ce que nous disons est vrai. N'est-ce pas? Parce que l'adage dit que ce que tu es crie plus fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est-à-dire que ta vie ne manifeste pas le message que tu m'annonces. Comment je peux y croire? C'est pour ça que Jésus disait à chaque fois, je vous ai dit des choses, mais je les ai aussi vécues. Ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas dit pour vos beaux yeux, mais je l'ai dit pour la vérité. Cette vérité, je l'ai vécue moi-même. C'est pour ça qu'il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que le chemin, je vous ai montré le chemin de par ma vie, de par mon message. Je suis la vérité parce que j'ai été vrai dans tout ce que je vous ai dit, dans tout ce que j'ai vécu. Et je suis la vie parce que ma vie n'est pas duplicité. J'ai eu qu'une seule vie et vous l'avez bien vu. J'ai manifesté la vie de Dieu. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est placer notre confiance en nous-mêmes. Non, laisse toujours la première, s'il te plaît. Placer toujours notre confiance en nous-mêmes au lieu de la placer en Dieu. C'est tellement facile de placer notre confiance en nous-mêmes. Parce que le monde nous a tellement dit que nous sommes... Et l'idée, on n'est pas là pour dire que nous ne sommes rien du tout. On n'est pas en train de dire, oh, on est nul. Non. Dieu nous a créés à son image. En Christ, Dieu nous régénère et nous renouvelle à nouveau comme au début de l'humanité. Donc nous sommes des êtres, des femmes et des hommes dignes de cette dignité humaine. Et nous devons l'assumer. La différence est que nous l'assumons en l'appuyant sur la parole de Dieu et non pas sur nos propres valeurs. C'est ça que ça veut dire. Placer notre confiance en nous-mêmes, c'est finalement, je suis chrétien, mais tout ce que je le fais pas avec la parole de Dieu. Non, je place ma confiance en moi-même plus qu'en Dieu. Alors que placer sa confiance en Dieu, c'est de dire, Dieu m'a donné des talents, des dons, une intelligence, une capacité, mais toutes ces choses, je veux continuer de les appuyer sur la vérité de la Bible. C'est ça la différence. Alors, s'engager avec Jésus-Christ, quelle attitude? Il faut faire des bons choix, savoir prendre ses distances. Cette année, on en a fait. On fera le bilan chacun. Est-ce que tu as toujours fait les bons choix selon Dieu? Peut-être pas, mais c'est pas si dramatique parce que nous sommes encore des êtres pécheurs, n'est-ce pas? Et que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, parfois, est un moment de retournement où on peut se ressaisir. Moi, je sais pas si vous avez tout réussi tout le temps dans votre vie. Moi, j'ai eu des échecs et j'en ai encore quelques-uns. Et ça me permet de revenir à Dieu, de dire, mais comment j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé? Éclaire-moi, Seigneur, pour que je reparte de plus belle avec toi. C'est ça. Faut pas rester dans l'échec en disant, oh, ça va pas aller, ouais, je vais pas y arriver, ça sera encore pareil. Non, ça c'est du pessimisme. Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu d'espoir. Jésus, lumière du monde, il est là pour toujours éclairer notre chemin, nous donner cette lumière nouvelle. Amen. Mais nous devons nous positionner, frères et sœurs. Nous devons faire des choix. Faire les bons choix, comme Jésus. Jésus a fait des choix lorsqu'il était dans ce monde. N'est-ce pas? Et il nous oriente maintenant par la parole de Dieu à faire des choix aussi, nous aussi. Le chrétien est appelé à se distinguer positivement dans le monde. On ne cherche pas des auréoles, on ne cherche pas des couronnes, c'est pas ça. C'est, on a besoin d'être ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons besoin de le vivre en tant qu'enfants de Dieu. Quelquefois, quand je fais des séminaires sur les multiculturels, on veut tout de suite que je parle de mon africanité. J'ai dit, de toutes les façons, je suis noir, ça se voit, j'ai pas besoin de le crier. Hein? Et il y a un proverbe africain qui dit que le tigre ne crie pas sa tigritude, c'est-à-dire que le tigre dans la forêt, bah, les animaux savent qui c'est le tigre. Et ceux qui sont en danger se cachent. Donc il n'a pas besoin de le crier parce qu'il est le tigre. Pour dire autrement, nous sommes des chrétiens et nous devons le vivre simplement, c'est tout. On n'a pas besoin de faire plus ni moins, on a besoin juste d'être des chrétiens et des chrétiens. Et vivre ce que nous sommes. Et ces choix sont orientés par la parole de Dieu. D'où la question qui doit encore te remotiver, quel est ton rapport à la Bible? Comment est-ce que la Bible continue d'être là? L'autorité dans tes choix, dans tes décisions. Qu'est-ce que ce livre continue de représenter pour toi? Au bout de quelques mois de vie chrétienne, au bout de plusieurs années de vie chrétienne, qu'est-ce que la Bible pour toi? Elle est la parole de Dieu. Nous devons être présents dans ce monde avec des valeurs de la Bible. N'est-ce pas? La Bible n'est pas un livre d'obligation ou d'interdiction. C'est la mauvaise façon d'aborder la Bible. La Bible est un projet de vie. Est un projet de vie. Est un projet d'amour. C'est le projet d'amour de Dieu pour toi. Tu veux savoir ce que Dieu a pour toi en réserve? Bah, c'est dans la parole de Dieu. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie et cette vie, je te l'ai donné le mot d'emploi. Le mot d'emploi s'appelle la Bible. Il dit, je formule sur vous des projets, non de malheur, mais de bonheur. Et ces projets sont dans la parole de Dieu. Il faut se rappeler. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut vivre notre vie chrétienne dans le puissant pour que les autres voient. Il faut se rappeler que le monde est désespéré. Trop souvent, le monde est en crise. Et que si nous, les chrétiens, nous continuons de vivre nos vies selon la parole de Dieu, bah, on a aussi des facteurs d'espoir. Parce que les autres verront que malgré les épreuves, les difficultés, les maladies, on a la pêche. Et cette pêche nous vient d'où? Elle nous vient pas parce que nous sommes des gens stupides, mais nous viennent parce que nous avons quelqu'un qui est solide. Le Dieu puissant qui nous porte et qui nous fait avancer dans les épreuves avec des douleurs, des souffrances, mais en tenant ferme, avec l'espoir qui nous en sortira toujours. La Bible dit que quand Dieu laisse la porte de l'épreuve, il met aussi la porte pour en sortir, car il n'est pas un Dieu sadique. Alors tout cela nous conduit à l'hymne à l'amour, frères et sœurs. Voilà où je voulais terminer ce matin. Cet hymne à l'amour, comment vivre cet amour de Dieu? Jésus, malgré le fait qu'il a été rejeté par notre humanité, il n'a cessé d'aimer. La preuve, il a donné sa vie pour l'homme. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, écrit cet hymne à l'amour. C'est quoi l'amour? Et l'apôtre Paul le dit dans ce texte d'un Corinthien. Il dit, l'amour est patient, l'amour est patient, l'amour est bonté, n'est-ce pas? Et deux caractéristiques positives de l'amour, la patience et la bonté. La patience et la bonté réunies sont deux caractéristiques fondamentales de l'amour. Je prie que Dieu nous aide. Je l'ai déjà dit dimanche dernier, je le redis là. Ma prière pour l'année qui s'ouvre, c'est que ta vie, ma vie, soit une vie pleine d'amour, de l'amour de Dieu, de cet amour vrai, qui sort de la parole de Dieu et non pas qui sort du monde. Parce que l'amour du monde est éphémère. Il est passager. Il est parfois trompeur. Il est fugace. Or, l'amour de Dieu est solide. Et les bases de cette solidité sont là, la patience et la bonté. Quand on aime, on est patient. Cette patience qui me donne de faire parfois simplement attention à l'autre. Même quand il fait des choses qui semblent me dire jette-le, repousse-le. Et la patience de Dieu nous l'a montré si bien. Depuis que nous avons péché, il aurait pu nous jeter, nous détruire, recréer notre humanité, il l'a pas fait. Il a pris patience. Il est patient envers nous. Et il dit, soyez patients les uns envers les autres. À commencer dans les familles, soyez patients les uns envers les autres dans les familles. Soyez patients. On n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous, mais soyons patients les uns envers les autres. Si vous avez un défi à prendre dans votre couple, dans votre famille, dans la relation enfant-parent, parent-enfant, prenez le défi de la patience. Prenez le défi de la bonté. La bonté ici, c'est celui qui se met au service de l'autre. Servir l'autre. Soyez bon comme votre Père Céleste est bon. Lui qui nous a servi dit, je suis le maître et pourtant, je vous sers. Le roi serviteur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ensuite, 8 façons de faire qui ne sont pas du tout de l'amour, qui sont contradictoires à l'amour. Celui ou celle qui aime ne fait pas le mal au prochain. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin encore de dire ça? Et pourtant, on a besoin de le dire, parce que finalement, dans nos vies de chaque jour, on fait quand même le mal au prochain. Et nous voulons avancer loin de ces choses, avec la force du Saint-Esprit en nous. Celui qui aime, il n'est pas animé d'une passion jalouse, excessive. Il y a une jalousie dans une proportion qui est saine. Mais l'excès de cette jalousie, c'est quand on dit une jalousie excessive, c'est de vouloir tellement garder quelqu'un sous sa coupe que finalement la personne n'a pas d'épanouissement. Parce qu'on veut qu'elle fasse tout ce que nous, on aime. Mais elle n'arrive pas elle-même à faire ce qu'elle aime. Comment elle peut s'épanouir? Comment elle peut s'épanouir? Un des aînés qui nous accompagnait dans notre parcours de fiançailles disait, la plus belle preuve d'amour, c'est d'aider l'autre à s'épanouir. C'est d'aider l'autre à s'épanouir. Et c'est réciproque. Plus tu cherches le fait que l'autre s'épanouisse, l'autre aussi cherche que toi tu t'épanouisses, à partir du moment où votre jalousie est raisonnable. Mais c'est pas évident, il faut prendre le temps de regarder si je ne suis pas dedans ou pas. Il ne se soucie pas exclusivement de sa propre image à se faire admirer. On a tous besoin de l'estime de soi-même, c'est pas mauvais. Mais quand c'est trop exclusif, on ne prend pas attention à l'autre, on ne fait pas attention à l'autre parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Parce qu'on est centré que sur nous-mêmes. Quand on est centré sur soi-même, comment on peut faire attention à l'autre? Comment on peut aimer l'autre? Il ne nous reste pas bloqué sur les faiblesses et les fautes de l'autre. Parfois, on laisse bloquer. Parce qu'on ne voit que ses faiblesses et que ses fautes. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas de faiblesse, toi? Mon frère, ma sœur, toi, tu n'as pas de faute. Toi, tu es nickel. Bah, tu aurais dû déjà aller au paradis, alors. Si tu es encore là comme nous, c'est que tu en as aussi. Peut-être pas à la même ampleur que l'autre, mais tu en as quand même. Donc ça doit te donner d'être humble et dans ton regard à l'autre, de ne pas te laisser bloquer sur le fait que l'autre est comme ça et qu'il ne changera jamais. En Christ, on fait confiance que l'autre, parce qu'il est chrétien, Dieu est capable de le changer. S'il n'est pas chrétien, c'est une autre affaire, mais on peut quand même prier pour lui et le confier à Dieu. Agis sans s'inquiéter de savoir si l'autre ne risque pas d'être blessé. Ça, c'est une mauvaise attitude aussi. Et quand j'agis vis-à-vis de l'autre ou quand je fais une action, je dois toujours prendre aussi, en tout cas toujours, c'est exagéré, mais je dois faire attention parce que je ne sais pas si l'autre va être blessé. Et l'hypothèse qui dit, ouais, mais lui, il est trop sensible, ça peut être vrai, mais si on fait cette hypothèse et que l'autre aussi fait la même hypothèse, on va constamment se blesser. on va constamment se blesser. Il ne cherche pas toujours que son propre intérêt en toute chose. C'est naturel de chercher notre propre intérêt. C'est pas contre Dieu. Mais c'est tout le temps, si c'est tout le temps ton propre intérêt, bah, où est l'intérêt de l'autre en ce moment? Il ne réagit pas instantanément de façon excessive à ce qui peut hériter. Il ne comptabilise pas le mal et n'entretient pas la rancune. Il ne se réjouit pas des souffrances et des injustices qui subit l'autre. Parfois, ce huitième point paraît tellement clair. Nous, les chrétiens, on peut pas se satisfaire. Mais c'est pas vrai. Parfois, au fond de toi, tu es quand même content parce que tu dis, voilà, c'est très bien pour lui, voilà. Je lui avais dit, il a pas compris, ben, c'est, voilà. Il s'en est plus plein la France, ben, c'est très bien. C'est difficile, ça, hein. Mais on le vit quand même. Que Dieu nous aide. À ne pas dire ces choses-là, ni à ne pas laisser ces choses-là grandir en nous, ce serait quand même dommage. Il ne se réjouit pas des souffrances et des injustices que subit les autres. Mais il se réjouit de la vérité. Cette vérité qui n'est pas juste une expression, mais qui est aussi une position de vie. Celui qui aime est prêt à pardonner en toute occasion. La diapo d'après. Celui qui aime est prêt à pardonner en toute occasion. Celui qui aime ou celle qui aime fait confiance en toutes circonstances. Celui ou celle qui aime espère en toutes circonstances. Enfin, celui ou celle qui aime est capable de tenir bon en toutes circonstances. L'amour, l'imana, l'amour c'est un travail. L'amour c'est un beau projet, mais un projet difficile. Tout ce qui est beau est difficile à réaliser. Tout ce qui est beau est difficile à réaliser. Regardez tout ce que l'être humain a construit de beau, ça prend toujours du temps. Mais si c'est pour détruire, c'est quelques minutes, parfois c'est quelques heures. L'image la plus tragique que j'ai de comment on peut détruire, c'est le 11 septembre, quand ces tours aux États-Unis ont été percutées par ces avions des terroristes. Ces tours que les gens ont mis des années à construire, en une seule journée, ces tours se sont effondrées. En une seule journée. En une seule journée. En quelques heures, ça s'est effondré. Quelques heures. Détruire, c'est facile. Détruire, c'est toujours facile. Construire, ça prend plus du temps. Mais le résultat est toujours bon. Le résultat est toujours bon. Prenons le temps de construire l'amour de Dieu. Prenons le temps de construire l'amour de Dieu dans nos cœurs. Pardon. Le pardon doit être au cœur de notre vie d'amour. Le pardon doit être au cœur de notre vie d'amour. La confiance. Faire confiance à l'autre. Combien de fois Dieu nous a fait confiance? Même si quelques fois, ça valait pas la peine. Combien de fois? Le plus difficile, c'est en toutes circonstances. Franchement, en toutes circonstances. Aimer, espérer en toutes circonstances, même quand parfois rien ne dit. Oui, pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, ne devons jamais perdre l'espoir. Parce que notre espoir, c'est que Dieu va finalement agir. Dieu va au bout du bout agir. C'est pour ça que nous sommes invités à la prière pour que l'action de Dieu se manifeste et que l'espoir puisse apparaître et prendre corps. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Alléluia. En toutes circonstances, cette persévérance, cette solidité, et terminons avec cette dernière diapo. L'amour est éternel. Je prie que Dieu nous aide, que nous puissions nous positionner par rapport au monde. Je l'ai déjà dit, quelques rappels ici. Le monde, ce monde que Dieu indexe, c'est celui qui n'est pas sous le regard de Dieu. C'est cette société qui est séparée, qui s'organise sans Dieu et qui veut faire des choses que Dieu n'aime pas. Nous n'avons pas le droit d'aimer ce monde. Nous avons l'invitation à nous départir, à fuir, à ne pas nous associer au péché de ce monde. Mais par contre, nous sommes invités à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, à l'amour du prochain. Cet amour qui demeure éternellement, qui gardera toujours sa place centrale au sein de la création de Dieu. L'amour ne tombe jamais. L'amour est ce qui demeure la réalité la plus solide. L'amour est positif, il cherche le bien de la personne et conduit à l'action en sa faveur, même jusqu'au sacrifice de soi-même. Il a donné sa vie pour nous. C'est lui que nous suivons, c'est Jésus. Et lisons ce texte pour terminer. J'ai été long aujourd'hui, mais c'est à dessein. C'est le dernier dimanche de l'année. Vous serez tolérants envers moi. 1 Jean chapitre 5. Si vous avez tout oublié, si vous voulez un texte pour entrer dans la nouvelle année ou pour finir cette année, je vous propose celui-là. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 21. Celui qui croit que Jésus... Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui en effet triomphe du monde. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. N'est-ce pas? Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien plus supérieur. Et ce témoignage, c'est que Dieu, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas au Fils a fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance de la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Ainsi, le diable ne peut pas le dominer. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ, ce Fils lui-même, le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Prions. Béni sois-tu notre Dieu. Merci pour ta grâce. Je nous recommande juste à ta grâce, notre Dieu, que ces longues paroles que j'ai dites, que chacun puisse en saisir un bout, et que ton esprit aide chacun à en faire de ce bout quelque chose de constructif pour sa marche avec toi. Béni sois-tu.